Prince Noir, Black Beauty, Anna Sewell, extrait choisi. Chapitre 1. Mon premier séjour. Le premier lieu dont je me souvienne distinctement est une vaste et agréable prairie, au milieu de laquelle se trouvait un étang. Des arbres feuillus ombrageaient son eau claire, des joncs et des nénuphars croissaient à l'une de ses extrémités. D'un côté, une haie nous séparait d'un champ labouré. De l'autre, par-dessus la porte à claire-voie, on voyait la maison du maître, située au bord de la route. En haut de la prairie se trouvait une plantation de mélèze. Au bas, courait un ruisseau profondément encaissé. Tant que je fus trop jeune pour manger de l'herbe, je me nourris du lait de ma mère. Le jour, je courais à ses côtés. La nuit, je me couchais tout près d'elle. Quand il faisait chaud, nous nous tenions d'habitude au bord de l'étang, sous les arbres. Faisait-il froid, nous avions près des mélèzes un bon hangar, bien abrité. Dès que je fus assez grand pour brouter l'herbe, je fus séparé de ma mère, qui s'en allait au travail pendant la journée et ne revenait que le soir. 6 autres poulains, tous plus âgés que moi, se trouvaient dans la même prairie. Quelques-uns d'entre eux étaient presque aussi grands que des chevaux. Je courais souvent avec eux, ce qui m'amusait beaucoup. Souvent, nous faisions plusieurs fois de suite le tour du pré en galopant de toutes nos forces. Parfois, cependant, ce n'était pas tout plaisir car il ruait et mordait volontiers. Un jour, qu'il y avait eu beaucoup de ruades, ma mère m'appela près d'elle en hennissant et me dit « Je désire que tu te souviennes de ce que je vais te recommander. Il n'y a rien à reprocher aux poulains qui vivent ici, car s'ils ne se connaissent point en bonne manière, ils n'en ont guère besoin étant destinés à la charrue et au charroi. Mais toi, tu es bien né, tu as été bien élevé, ton père a une grande réputation dans le pays et ton grand-père a obtenu le premier prix aux courses de Newmarket. Ta grand-mère avait le caractère le plus doux que j'ai connu. Je ne crois pas non plus que tu m'aies jamais vu ni mordre ni ruer. J'espère que tu grandiras pour être toujours doux et docile et que tu ne prendras aucune de ces mauvaises habitudes. Travaille de bon cœur, lève bien les pieds quand tu trottes et ne mords ni ne rue jamais, même en jouant. De ma vie, je n'ai oublié ce conseil de ma mère. Je savais que c'était une jument très sage et dont notre maître faisait grand cas. Elle se nommait Duchesse, mais souvent, il l'appelait mignonne. Notre maître était un homme plein de bonté et de bienveillance. Nous étions bien nourris, bien logés, traités avec douceur. Il nous parlait aussi amicalement qu'à ses jeunes enfants. Tous, nous l'aimions. Ma mère surtout lui était très attachée. Lorsqu'elle l'apercevait à la porte, elle hennissait de plaisir et allait à lui en trottant. Alors, il la flattait, il la caressait en disant « Eh bien, ma vieille mignonne, comment va ton petit noireau ?» Il me nommait ainsi parce que j'étais complètement noire. Puis, il me donnait un morceau de pain et apportait une carotte à ma mère. Tous les chevaux aimaient à s'approcher de lui. Je crois cependant que nous étions ses préférés. C'était toujours ma mère qui le conduisait en ville les jours de marché, attelé à un léger char de chasse. Un garçon de charrue nommé Jacques venait souvent dans notre pré cueillir des mûres à la haie. Quand il en avait assez mangé, il s'amusait à jeter des bâtons et des pierres aux poulains pour les faire galoper. Leste, comme nous étions, cela ne nous inquiétait guère. Parfois, cependant, une pierre nous atteignait. Il recommença un jour ce vilain jeu sans se douter que le maître était dans le champ voisin. Voyant ce qui se passait, il franchit la haie d'un bond, saisit Jacques par le bras et lui appliqua un soufflet qui le fit hurler de douleur et de saisissement. Dès que nous aperçûmes le maître, nous nous rapprochâmes pour voir ce qui se passait. « Méchant gamin !» dit-il. « Méchant gamin !» Ce n'est ni la première ni la seconde fois que tu fais ainsi la chasse à mes poulains, mais ce sera la dernière. Là, prends tes gages et retourne chez tes parents. Je ne te veux plus à la ferme. » Dès lors, nous ne revîmes jamais Jacques. Le vieux Daniel, qui avait la charge des chevaux, était tout aussi doux que le maître et nous traitait fort bien. Chapitre 2. La chasse. Avant que j'eusse atteint l'âge de 2 ans, il arriva un événement que je n'ai jamais oublié. C'était au premier jour de printemps. Il avait un peu gelé pendant la nuit et un léger brouillard couvrait les prairies et les bouquets d'arbres. Les autres poulains et moi pêchions au bas du pré quand nous entendîmes dans le lointain comme un aboiement de chien. Le plus âgé d'entre nous leva la tête, dressa les oreilles et dit « Voici la meute !» Il remonta le pré au galop, suivi de tous les autres, jusqu'à un endroit d'où, par-dessus la haie, on voyait plusieurs champs. Ma mère et un vieux cheval de selle de mon maître se tenaient près de là et semblaient au fait de ce qui se passait. « Ils ont levé un lièvre, » dit ma mère. Et s'ils viennent de ce côté, nous verrons la chasse. » Bientôt, en effet, nous vîmes les chiens traverser en courant le champ de jeunes froments voisins de notre pré. Jamais je n'avais entendu pareil bruit. Ils n'aboyaient, ni ne hurlaient, ni ne pleuraient, mais faisaient entendre un « yo, yo, yo » de leur voix la plus haute. Un certain nombre de cavaliers, quelques-uns en habit vert, les suivaient au galop. Le vieux cheval hennit et les suivit d'un regard ardent, tandis que nous autres poulains aurions bien voulu courir à leur suite. Ils eurent bientôt atteint les champs qui se trouvaient plus bas. Là, ils semblèrent faire une halte. Les chiens, cessant d'aboyer, coururent de côté et d'autre en flairant le sol.
« Ils ont perdu la piste, » dit le vieux cheval.
« Peut-être le lièvre échappera-t-il. »« Quel lièvre ? » demandai-je.
« Oh, je ne sais quel lièvre. C'est peut-être l'un de ceux de notre plantation. Il importe peu à ces chiens et à ces hommes d'où vient le lièvre pourvu qu'ils puissent le chasser. »
Avant peu, les chiens recommencèrent leurs cris. Et se dirigèrent de toute leur vitesse du côté de notre pré, là où le ruisseau était bordé d'un haut talus surmonté d'une haie. « Nous allons voir le lièvre, » dit ma mère. Et, au même instant, un lièvre affolé de terreur passa près de nous, se dirigeant vers la plantation. Les chiens, sautant par-dessus la haie et le talus, passèrent l'eau et s'élancèrent dans le pré, suivis par les chasseurs. 6 ou 8 cavaliers franchirent le ruisseau à la suite des chiens. Le lièvre essaya de traverser la palissade, mais la trouvant trop serrée, il se retourna vivement du côté de la route. Il était trop tard. Les chiens se jetèrent sur lui avec des hurlements sauvages. Nous entendîmes un cri et s'en fut fait de lui. L'un des chasseurs arriva et à coups de cravache, il chassa les chiens qui autrement l'auraient dévoré. Il souleva par la patte la pauvre bête, sanglante et déchirée, et tous les chasseurs parurent fort satisfaits. Pour moi, j'étais si étonnée que je n'aperçus pas d'abord ce qui se passait au bord du ruisseau. Mais quel triste spectacle je vis en regardant de ce côté-là. 2 beaux chevaux
était à terre. L'un se débattait dans le ruisseau, l'autre gémissait couché sur l'herbe. L'un des cavaliers sortait de l'eau tout couvert de boue, l'autre gisait à terre, sans mouvement. « Il s'est cassé le cou, » dit ma mère.
« Cela lui vient bien, » dit l'un des poulains.
Je pensais comme lui, mais ma mère ne fut pas du même avis. « Ne parlez pas ainsi, » dit-elle. « Il est vrai que, quoique je sois âgée, que j'ai vu et entendu bien des choses, je n'ai jamais pu découvrir pourquoi les hommes aiment tant la chasse. Souvent ils s'y blessent, ils y abîment de bons chevaux, ils foulent les champs, tout ça pour un lièvre, un renard ou un cerf qu'ils se procureraient plus facilement d'une autre manière. Mais voilà, nous ne sommes que des chevaux et n'en savons pas plus long. »
Tandis que ma mère parlait ainsi, nous nous tenions près d'elle, regardant ce qui se passait. La plupart des cavaliers étaient venus auprès du jeune homme. Mon maître, qui avait suivi la chasse des yeux, fut le premier qui essaya de le soulever. Mais la tête du blessé se renversa, ses bras retombèrent inertes, et chacun prit un air très sérieux. À cette heure, on ne faisait plus de bruit. Les chiens eux-mêmes étaient devenus silencieux et semblaient comprendre qu'un malheur était arrivé. On transporta le jeune homme dans la maison de mon maître. Plus tard, j'appris que c'était George Gordon, le fils unique d'un gentilhomme du voisinage, un grand et beau jeune homme, l'orgueil de sa famille. On se mit bientôt en route dans toutes les directions, pour aller quérir le médecin, le vétérinaire, et sans doute aussi pour avertir M. Gordon de l'état de son fils. Quand M. Bond, le vétérinaire, arriva, il palpa en tous sens le cheval noir qui gémissait, étendu dans l'herbe. Il secoua la tête. L'une des jambes était cassée. Quelqu'un courut aussitôt chez notre maître et revint avec un fusil. Le moment d'après, on entendit un coup de feu, un cri terrible, et tout redevint silencieux. Le cheval noir ne remua plus. Ma mère parut fort attristée. Elle connaissait ce cheval depuis des années, disait-elle. Il se nommait Rob Roy, c'était un bon cheval, très hardi, et qui n'avait aucun vice. Jamais elle ne revint dans ce coin de la prairie. Peu de jours après, nous entendîmes la cloche de l'église sonner pendant longtemps, et regardant par-dessus la barrière, nous vîmes une étrange voiture noire, couverte de draps noirs et tirée par des chevaux noirs. Elle était suivie d'un grand nombre d'autres voitures, noires aussi. Et tout le long, la cloche tintait lentement. On emportait le jeune Gordon au cimetière pour l'enterrer. Jamais il ne devait remonter à cheval. Quant à Rob Roy, je ne pus savoir ce qu'on en fit. Et tout cela pour un lièvre. Chapitre 7 Caprice. Un jour que Caprice et moi nous nous trouvions seuls sous l'ombrage de notre arbre favori, nous eûmes une longue conversation. Elle voulut savoir d'où je venais, comment j'avais été élevée et de quelle manière on m'avait dressée. « Eh bien, » me dit-elle après que je le lui eus raconté, si j'avais été élevée ainsi, j'aurais peut-être un aussi bon caractère que toi, mais je ne crois pas que j'y arrive jamais.
Pourquoi pas ? Demandai-je.
Parce que pour moi, tout a été si différent, répliqua-t-elle.
Jamais ni homme ni cheval n'a été bon pour moi, et je ne me suis jamais soucié de plaire à personne. Dès que je fus sevrée, on me sépara de ma mère pour me mettre avec une troupe de poulains dont aucun ne s'inquiétait de moi et pour lequel je n'avais aucune amitié. Je n'avais pas comme toi un bon maître qui veilla sur moi, qui vint me parler et m'apporter des friandises. De sa vie, l'homme qui prenait soin de nous ne m'a dit une parole amicale. Il ne me maltraitait pas, mais quand nous avions assez à manger et un abri en hiver, il ne s'inquiétait pas d'autre chose. Un sentier traversait notre pré, et bien souvent les gamins qui passaient par là nous jetaient des pierres pour nous faire galoper. Jamais je n'en fus atteinte, mais un beau poulain reçut à la face un coup dont il portera la cicatrice toute sa vie. Il va sans dire que cela nous rendait sauvages, et nous regardions tous les garçons comme nos ennemis. Nous trouvions un grand amusement à galoper librement le long des grandes prairies et à nous pourchasser en faisant maintes fois le tour, puis à nous reposer à l'ombre des arbres. Mais quand arriva le moment d'être dressé, je passais un triste temps. Plusieurs hommes vinrent me saisir et quand ils m'eurent enfermé dans un étroit enclos, l'un me prit par le toupet, un autre me saisit le nez et le serra si fort qu'à peine pouvais-je respirer. Enfin, un troisième, prenant dans sa main dure ma mâchoire inférieure, m'ouvrit rudement la bouche et y introduisit de force le mort accompagné de la bride. Tandis qu'il me tirait violemment par le licou, son compagnon me poussait par derrière à coups de cravache. Ce fut ma première expérience des traitements de l'homme. Il n'eut recours qu'à la force et n'essaya même pas de me faire comprendre ce qu'il demandait de moi. J'étais de bonne race, j'avais beaucoup de feu, j'étais farouche, et sans nul doute, je leur ai donné beaucoup de peine. C'est qu'aussi, il était affreux d'être enfermé jour après jour, d'avoir perdu ma liberté. Je m'irritais, je languissais, et ne songeais qu'à m'échapper. Tu sais toi-même combien c'est dur, alors même qu'on a un bon maître qui prodigue les caresses. Pour moi, il n'en était pas question. Mon vieux maître, Monsieur Cavalier, aurait pu, je crois, m'apprivoiser et faire de moi ce qu'il aurait voulu, mais ayant remis à son fils et à un associé toute la partie fatigante de son commerce, il se bornait à donner de temps en temps un coup d'œil de surveillance. Son fils, Samson, fort et hardi, se vantait souvent qu'aucun cheval n'avait réussi à le jeter à terre. En lui, aucune douceur. Comme chez son père, tout était dur, sa voix, son regard, sa main. Dès lors, je sentis qu'il ne voulait que me mater et faire de moi une esclave soumise, paisible, obéissante, une vraie bête, comme disent les hommes. À ce souvenir, qui l'irritait encore, Caprice frappa du pied avec impatience. Elle continua. Quand je ne faisais pas exactement sa volonté, il se mettait en colère et me faisait courir autour du champ de manège jusqu'à ce que je fusse épuisée. Je crois qu'il buvait, et plus cela lui arrivait, plus il était méchant pour moi. Un jour, qu'il m'avait fatiguée de toute manière, n'en pouvant plus, je me couchais, malheureuse et courroucée. Mon sort me semblait trop dur. Le lendemain, Samson revint me chercher et me fit courir longtemps. Je n'avais pas eu une heure pour me remettre qu'il revint avec une selle, une bride et un mors d'une nouvelle espèce. Impossible de dire comment les choses se passèrent. Il venait de me monter sur le terrain de manège lorsque je ne sais quoi l'irrita contre moi. Il tira violemment les rênes. Le nouveau mors me faisait très mal. Je me cabrais vivement, ce qui le fâcha davantage, si bien qu'il se mit à me cingler de coups de cravache. L'esprit de révolte me saisit. Je me cabrais, je ruais comme je ne l'avais jamais fait, et bientôt ce fut entre nous un véritable combat. Pendant longtemps, il se maintint en selle, me châtiant cruellement de la cravache et des éperons, mais j'étais tellement exaspérée que peu m'importaient ses mauvais traitements pourvu que je pusse le jeter à terre. Enfin, après une lutte terrible, je le lançai en arrière. Je l'entendis tomber lourdement sur le gazon et sans regarder derrière moi, je m'enfuis à l'autre bout de l'enclos. Arrivé là, je me retournai et vis mon persécuteur se relever lentement et se diriger vers l'écurie. Debout sous un chêne, j'attendis. Personne ne vint me reprendre. Les heures s'écoulaient, le soleil était brûlant. Des essaims de mouches s'abattaient sur mes flancs ensanglantés par l'éperon. J'avais faim, car je n'avais rien mangé depuis le matin, et l'herbe de l'enclos aurait à peine suffi au repas du noix. J'aurais voulu me coucher à terre et me reposer, mais la selle étroitement sanglée m'en empêchait. Pas une goutte d'eau. L'après-midi s'avançait, le soleil descendait à l'horizon. On fit rentrer les autres poulains pour leur donner un bon repas, je le savais. Enfin, au moment où le soleil disparaissait, je vis venir le vieux maître, tenant un bassin d'avoine à la main. C'était un beau vieillard, aux cheveux tout à fait blancs, et dont je reconnaîtrais la voix entre mille. Elle n'était ni haute, ni basse, mais pleine, claire, bienveillante. Quand il donnait un ordre, sa parole était si calme et si ferme, comme les chevaux sentaient également qu'il n'y avait qu'à obéir. Il s'approcha tranquillement, secouant parfois l'avoine qu'il apportait dans le bassin, et me parla avec bonté et bonne humeur. « Viens, viens ma fille, viens ma fille, viens par ici. » Je ne bougeais pas et le laissais approcher. Il me présenta l'avoine que je mangeais sans crainte. Sa voix m'avait enlevé toute frayeur. Tandis que je mangeais, il me donnait de petites tapes et me caressait. En voyant les caillots de sang sur mon côté, il parut très vexé. Pauvre petite, quelle triste affaire, quelle triste affaire! Puis, me prenant doucement par la reine, il me conduisit à l'écurie. Samson se tenait près de la porte. Je dressai les oreilles et fis mine de le mordre. « Retire-toi, » dit le maître, « et ne te remets pas sur son chemin. Tu as fait une triste besogne avec cette pouliche. » Le fils grommela en m'appelant une brute vicieuse. « Écoute, » dit le père, « un homme de mauvais caractère n'a jamais eu un cheval qui l'eût bon. Tu n'as pas encore appris ton métier, Samson. » Puis, il me conduisit dans ma stalle, m'enleva de ses propres mains la selle et la bride. Ayant fait venir un baquet d'eau chaude et une éponge, il ôta son habit, et tandis que le valet d'écurie tenait le baquet, il épongea longtemps mes flancs avec une douceur qui me fit voir qu'il comprenait combien je souffrais de mes blessures et de mes contusions. « Là, ma mignonne, tiens-toi tranquille, tiens-toi tranquille. » Sa voix me faisait du bien, presque autant que les ablutions. Les coins de ma bouche étaient écorchés en sorte que je ne pouvais manger du foin. Les tiges me blessaient. Il examina ma bouche de près, secoua la tête et ordonna au garçon de me faire une bonne pâtée de son mêlée de farine. Quel régal ! Comme c'était doux et bienfaisant ! Le maître se tint près de moi tout le temps que je mangeais, me caressant et causant avec le valet. Si un cheval aussi fougueux que celui-ci, dit-il, n'est pas soigné avec douceur et de bons procédés, on n'en fera jamais rien. Après cette aventure, il vint souvent me voir, et quand ma bouche fut guérie, son associé, Job, continua de me dresser. C'était un homme calme et réfléchi, qui m'eut bientôt appris tout ce qu'il voulait que je susse. Chapitre 33. Un cheval de fiacre à Londres. Mon nouveau maître se nommait Jérémy Barker, mais comme chacun l'appelait Jerry, je ferais de même. Marie, sa femme, était aussi bonne que lui. Il n'aurait pu être mieux assorti. C'était une petite femme proprette et bien arrangée, avec un peu d'embonpoint, des yeux bruns, des cheveux de même couleur bien lisse, et une petite bouche souriante. Henri avait presque 12 ans. C'était un grand garçon ouvert et d'un bon naturel. Âgé de 8 ans, la petite Dorette était tout le portrait de sa mère. Ils s'aimaient tendrement. Jamais, ni avant ni après, je n'ai connu de famille plus unie et plus joyeuse.
Jerry possédait un fiacre et deux chevaux qu'il conduisait et soignait lui-même. Mon compagnon d'écurie était un grand cheval blanc, un peu osseux, appelé capitaine. À cette époque, il était déjà vieux, mais dans sa jeunesse, il devait être un superbe animal. Il avait encore une façon très fière de tenir la tête et de courber le cou. De fait, c'était un noble cheval de race. Parfaitement dressé. Il me dit que dans sa première jeunesse, il avait fait la campagne de Crimée au service d'un officier de cavalerie qui marchait toujours en tête du régiment. Plus tard, je parlerai de lui. Le lendemain matin, quand j'eus été bien étrillé, Marie et Dorette descendirent à la cour pour faire plus ample connaissance avec moi. Henri, qui aidait son père depuis le bon matin, assurait que j'étais un fameux gaillard. Marie m'apporta un quartier de pommes et Dorette un morceau de pain. Elles m'admirèrent autant que si j'avais encore été le prince noir d'autrefois. Ce fut une grande jouissance d'être de nouveau gâtée et caressée, d'entendre mes maîtres me parler d'une voix douce. Aussi, leur laissai-je clairement voir mon désir d'être avec eux dans des rapports d'amitié. Marie me trouvait très beau, trop beau pour un fiacre, n'eût été mes genoux couronnés. « Il va sans dire que personne ne nous apprendra à qui en est la faute, » dit Jerry. Et aussi longtemps que je l'ignorerai, je ne la mettrai pas sur son compte, car je n'ai jamais vu un pas aussi sûr et aussi régulier. Nous l'appellerons Jack, comme l'ancien. Veux-tu, Marie ?
Je veux bien, dit-elle. J'aime à conserver les noms qui rappellent de bons souvenirs.
Capitaine sortit avec le fiacre pendant toute la matinée. Henri vint après l'école me donner à manger et de l'eau à boire. Et l'après-midi, je fus attelé à mon tour. Jerry fut aussi soigneux que Jean Mally lui-même, à voir que la bride et le collier ne me gênassent pas. Quand la croupière eut été relâchée d'un ou deux trous, tout alla bien. Ni gourmette, ni fausse reine, rien qu'un simple bridon. Quel bonheur ! Après être sortis des rues de traverse, nous arrivâmes à la grande station de fiacre où Jerry avait salué un ami. D'un côté de cette large rue se voyaient de hautes maisons avec des magasins aux magnifiques devantures. De l'autre, une église et un cimetière enclos d'une balustrade de fer. Une file de fiacres était alignée le long de cette balustrade, attendant des amateurs. Des débris de foin traînaient à terre, çà et là. Quelques-uns des cochers causaient ensemble, d'autres restaient sur leur siège, lisant leur journal. Deux ou trois donnaient à leurs chevaux une poignée de foin et une gorgée d'eau. Quand nous eûmes pris rang derrière les autres voitures, deux ou trois de ces cochers s'approchèrent pour m'examiner, en faisant force remarque.
« Il ferait bien un enterrement, » dit l'un. « Il a l'air trop distingué, » fit un autre en secouant la tête d'un air profond. « Vous ferez quelque fâcheuse découverte l'un de ces jours, où je ne m'appelle pas Jonas. » « Eh bien, » dit Jerry avec bonne humeur, « il est inutile de faire ces découvertes avant le temps. Je me propose donc d'en jouir le plus longtemps que je pourrai. »
Là-dessus, arriva un homme à la large face, à l'air jovial et bon enfant, auquel les autres firent place aussitôt. Il était vêtu d'un surtout gris à plusieurs cols et à grands boutons blancs, et couvert d'un chapeau de même couleur. Un cache-nez bleu enveloppait négligemment son cou. Il m'examina en détail, comme s'il avait eu l'intention de m'acheter. Puis, se redressant avec une espèce de grognement, il dit
« C'est tout ce qu'il vous fallait, Jerry. Quel que soit le prix que vous en ayez donné, il le vaut bien. »
Dès ce moment, ma réputation fut établie à la station. Le nom de cet homme était Grant, le doyen Grant, comme on l'appelait, parce qu'il était le plus ancien cocher de la station. Il prenait sur lui d'arranger les différends et d'arrêter les disputes. D'ordinaire, homme de jugement et d'un bon caractère, on ne se souciait pourtant pas d'être à portée de son poing quand il avait un peu trop bu, car les coups qu'il assénait alors étaient vigoureux. La première semaine où je fis le métier de cheval de fiacre fut très difficile.
Je n'étais jamais venue à Londres. Le bruit, la presse, la foule, des chevaux, des chariots, des voitures au travers de laquelle il fallait me frayer un passage m'inquiétaient et me troublaient. Toutefois, je découvris bientôt que je pouvais entièrement me fier à mon conducteur, en sorte que je me tranquillisais et finis par m'habituer à ce brouhaha. Jamais je n'ai connu de meilleur cocher que Jerry. Non seulement il savait son métier, mais, ce qui valait mieux encore, il avait égard à son cheval autant qu'à lui-même. Il ne tarda pas à découvrir que je ne craignais point la peine et que j'étais plein de bonne volonté pour mon service. Jamais il ne me donnait de coups de fouet, mais se bornait à m'en caresser doucement le dos lorsque je devais me remettre en marche. D'ordinaire, cependant, je ne comprenais rien qu'à la manière dont il prenait les rênes. Aussi, son fouet était-il moins souvent dans sa main que planté à ses côtés. Au bout de très peu de temps, nous nous entendîmes, mon maître et moi, aussi bien qu'il est possible entre un homme et un cheval. De même, à l'écurie, il faisait tout pour le bien-être de ses chevaux. Comme les stalles à l'ancienne mode étaient trop inclinées pour que nous fussions à notre aise, il enfermait l'entrée avec des barres mobiles, en sorte que, lorsqu'il nous débarrassait de nos licous, nous pouvions à volonté nous tenir debout, nous retourner ou nous coucher. Jerry nous tenait très propres et variait le plus qu'il pouvait notre nourriture, toujours abondante. Surtout, il ne nous pleurait pas l'eau fraîche, qu'il mettait à notre portée jour et nuit, excepté, cela va sans dire, quand nous rentrions échauffés. On prétend quelquefois qu'il ne faut pas laisser les chevaux boire tant qu'ils veulent, mais je sais que lorsqu'un cheval a de l'eau à sa portée, il ne boit que peu à la fois, ce qui lui vaut bien mieux que d'avaler tout un seau après qu'on l'aura laissé mourir de soif. Bien des garçons d'écurie retournent chez eux ou vont se rafraîchir au cabaret en nous laissant durant des heures avec du foin sec et de l'avoine, sans rien de liquide pour les humecter. Après cela, il va sans dire qu'on en avale trop à la fois, ce qui contribue à nous donner de l'oppression et nous glace souvent l'estomac. Mais ce qui, chez Jerry, valait encore mieux que tout le reste, c'est que nous avions nos dimanches pour nous reposer. Nous travaillons d'une manière si fatigante durant la semaine que, sans ce jour de relâche, nous n'aurions pu y tenir. De plus, nous jouissons alors, capitaine et moi, de la compagnie l'un de l'autre. Ce fut un dimanche que j'appris l'histoire de mon camarade. Chapitre 34. Un vieux cheval de guerre. Capitaine avait été élevé et dressé pour l'armée. Son premier possesseur fut un officier prêt à partir pour la guerre de Crimée. Il jouissait beaucoup, me disait-il, d'être exercé avec d'autres chevaux, de trotter ensemble, de tourner à droite, à gauche ou de s'arrêter court à la parole du commandant. Il aimait à s'élancer en pleine carrière au son de la trompette ou au signal d'un officier. Dans sa jeunesse, on admirait fort sa belle encolure et son pelage d'un gris de fer pommelé. Son maître, jeune gentilhomme plein d'ardeur et de courage, l'aimait extrêmement. Dès le premier jour, il le traita avec beaucoup de soin et de bonté. Capitaine trouvait alors la vie d'un cheval de cavalerie très agréable, mais il fut tenté de changer de sentiment quand il passa la mer, enfermé dans un grand vaisseau. « L'embarquement fut affreux, dit-il. Il va sans dire que nous pûmes aller tout droit de la terre sur le navire. On fut donc obligé de nous passer sous le ventre de fortes sangles pour nous enlever de terre. Nous eûmes beau nous débattre, on nous lança par-dessus l'eau, dans les airs, sur le pont du grand vaisseau. Là, nous fûmes enfermés dans des loges étroites et durant bien des jours, nous ne pûmes ni voir le ciel ni étendre les jambes. Par les gros temps, nous étions violemment ballottés et jetés de côté et d'autre. Nous éprouvions un grand malaise. Enfin, ce supplice eut un terme. Mais il fallut que, pour nous mettre à terre, on nous souleva encore une fois et qu'on nous lança dans les airs. Lorsque nous sentîmes de nouveau la terre ferme sous nos pieds, nous nous ébrouâmes et nous hennîmes de contentement. Je m'aperçus vite que le pays où nous nous trouvions était très différent du nôtre, et qu'outre les batailles, nous aurions à endurer bien des maux. Plusieurs des soldats aimaient tellement leurs chevaux que, malgré la neige, l'humidité, le désordre général, ils faisaient leur possible pour les installer commodément. « Et les batailles ?» demandai-je. « N'est-ce pas encore pire que tout le reste ?»«
Je ne saurais vraiment le dire, » répondit-il. « Nous aimions toujours à entendre le son de la trompette qui nous appelait au combat. Nous étions impatients de sortir, bien qu'il fallût souvent attendre durant des heures la parole du commandement. »
Quand l'ordre arrivait, nous nous élancions avec autant d'ardeur et d'entrain que s'il n'y avait eu à redouter ni balles, ni baïonnettes, ni boulets. Tant que nous sentions notre cavalier en selle et que sa main tenait les rênes, aucun de nous ne se laissait aller à la crainte, alors même que les terribles bombes qui tourbillonnaient dans les airs éclataient en mille morceaux autour de nous.
Nous nous lançâmes, mon noble maître et moi, dans bien des engagements sans recevoir une seule blessure. Quoique je visse d'autres chevaux abattus par des boulets, percés à coups de baïonnette ou mutilés par le sabre, puis laissés morts ou agonisants sur le champ de bataille, je ne crois pas avoir jamais eu peur pour moi-même. Quand j'entendais mon maître encourager ses hommes de sa voix cordiale, je ne pensais plus au danger.
Ma confiance était si parfaite que, guidée par lui, je me serais élancée à la gueule d'un canon. Sous mes yeux, bien des bras furent coupés en deux, ou tombèrent de leurs selles mortellement blessés. Bien souvent, j'avais entendu les cris et les gémissements des moribonds galoper sur un terrain humide de sang en prenant garde de ne pas fouler aux pieds un homme ou un cheval blessé, et cependant, je n'avais jamais éprouvé de crainte, jusqu'à un certain jour que je n'oublierai de ma vie. Ici, capitaine s'arrêta et respira longuement. J'attendis. Après quelques moments de silence, il continua.
C'était un matin d'automne. Comme d'habitude, la cavalerie était sur pied une heure avant jour, carapaçonnée et prête pour la tâche de la journée, soit qu'elle fût appelée à se battre ou à attendre.
À mesure que la lumière croissait, il se manifestait une certaine agitation parmi les officiers, et avant qu'il fît tout à fait clair, on entendit gronder les canons ennemis. Alors, l'un des officiers, montant en selle, commanda aux soldats de faire de même. Une seconde après, tout était prêt. Les chevaux attendaient avec impatience un mouvement de la bride ou un coup de talon de leur cavalier pour s'élancer en avant. Nous étions pourtant si bien dressés que, sauf un mouvement de tête ou le mordillement du frein, aucun de nous ne bougea. Mon cher maître et moi étions en tête de la ligne. Comme tous demeuraient immobiles, en éveil, il remit à sa place une mèche de ma crinière qui était tombée de l'autre côté, la lissa de sa main et dit, en me caressant le cou, « Ce sera une chaude journée, Bayard, mon beau cheval, mais nous ferons notre devoir comme nous l'avons toujours fait. » Jamais il ne m'avait tant caressé. Me semble-t-il, il passait et repassait la main sur mon cou comme s'il pensait à autre chose. J'aimais à sentir sur moi cette main amicale. Heureux et fier, je relevais la tête sans faire de mouvement car j'avais appris à régler ma conduite sur son humeur, demeurant tranquille ou m'animant selon ses désirs que je connaissais. Ne pouvant te parler en détail de tout ce qui advint ce jour-là, je me bornerai à te raconter la dernière charge que nous fîmes ensemble. C'était à travers une vallée, juste en face des batteries de l'ennemi. Nous étions dès longtemps accoutumés au ronflement du canon, au pétillement de la mousqueterie et au sifflement des balles, mais je n'avais jamais assisté à une semblable mêlée, ni essuyé un feu pareil à celui que nous eûmes à soutenir tout le jour. À notre droite, à notre gauche, sur notre front, les balles et les bombes pleuvaient comme grêle. Nombreux furent les braves qui tombèrent ce jour-là, les chevaux qui périrent, entraînant dans leur chute leurs cavaliers. Plus d'un cheval privé de son maître s'élança, affolé hors des rangs, puis terrifié de se sentir seul sans une main pour le guider, il revenait se serrer entre ses vieux camarades et courait avec eux à la charge. Quelque effrayante que fût cette charge, personne ne s'arrêta ni ne tourna le dos. De moment en moment, les rangs s'éclaircissaient. Mais à mesure que nos camarades tombaient, nous resserrions nos rangs et loin de nous laisser ébranler ou de ralentir le pas, notre galop devenait plus rapide à mesure que nous approchions des canons, enveloppés d'une fumée blanche d'où s'échappaient de rouges lueurs. Mon maître, mon cher maître, encourageait ses camarades de la voix, levant en l'air le bras droit lorsqu'une balle siffla au-dessus de ma tête et vint le frapper. Je le vis chanceler sous le coup. Il ne proféra pas un cri. J'essayai de ralentir ma course, mais l'épée tomba de sa main droite, la gauche lâcha les rênes et il tomba à terre à la renverse. Les autres cavaliers passèrent près de nous au galop. L'impétuosité de leur charge m'entraîna du lieu où il était tombé. J'aurais voulu demeurer à ses côtés et ne pas le laisser écraser sous les pieds des chevaux qui se pressaient en avant. Ce fut impossible. Sans maître, sans ami, je me trouvais seul sur ce champ de carnage. Alors seulement la frayeur me saisit. Je tremblais comme je n'avais tremblé de ma vie. Comme bien d'autres chevaux, je voulus rejoindre mes camarades, me mêler à leur rang, mais les soldats me repoussèrent à coups de plats de sabre. Au même instant, un soldat dont le cheval avait été tué sous lui me saisit par la bride et monta sur mon dos. J'allais en avant, conduit par ce nouveau maître, lorsque les débris de notre vaillante compagnie, écrasés et cruellement décimés, repassèrent sur ce même terrain, battant en retraite. Quelques chevaux, grièvement blessés, avaient perdu tant de sang qu'ils n'avaient plus la force d'avancer. D'autres essayaient de se traîner en avant sur trois jambes, d'autres encore, dont les jambes de derrière avaient été fracassées, faisaient de vains efforts pour se soutenir sur celles de devant. C'était pitié d'entendre leurs gémissements. Je vois encore le regard suppliant qu'ils attachaient sur ceux qui avaient échappé et qui devaient les abandonner à leur triste sort. Après la bataille, on vint ramasser les blessés et enterrer les morts. « Et les chevaux blessés ?» demandai-je. Les laissa-t-on périr ? Non. Les vétérinaires de l'armée parcoururent le champ de bataille armés de pistolets et tuèrent tous ceux qui n'étaient plus bons à rien. Ceux qui n'avaient que des légères blessures furent ramenés au camp et soignés, mais la plupart des vaillantes et dociles créatures qui, le matin, étaient parties pleines de feu, ne revinrent jamais. Dans nos écuries, il n'en restait guère qu'un sur quatre. Je ne revis plus mon cher maître qui, je le crois, tomba mort de dessus la selle. C'est de tous celui que j'ai le plus aimé. Je pris part à bien d'autres engagements où je ne reçus qu'une blessure assez légère. Quand la guerre fut terminée, je revins au pays aussi fort et bien portant que jamais. J'ai entendu quelquefois parler de la guerre comme d'une belle chose, lui dis-je. Je crois que ceux qui parlent ainsi ne l'ont jamais vu de près, répondit-il. C'est beau quand il n'y a pas d'ennemis, quand on ne voit que l'exercice, la parade, la petite guerre. Oui, cela est très beau. Mais quand des milliers de braves gens courageux, des milliers de chevaux sont tués ou estropiés pour la vie, c'est bien différent. Sais-tu pourquoi l'on se battait ? Demandai-je. Non, cela dépasse la compréhension d'un cheval. Mais il faut que les ennemis soient des gens terriblement mauvais pour qu'on aille si loin, à travers la mer, dans le but exprès de les tuer.